Troisième partie, le sens commun et l'intelligence des formules dogmatiques position du problème. Cette étude s'efforce de reprendre le problème de la valeur des formules dogmatiques au point où l'on laissait en 1907 les discussions provoquées par Monsieur Leroy et les modernistes. Les formules de la foi, nous dit-on, doivent être interprétées comme écrites en langage de sens commun, non dans la langue technique d'aucune philosophie. Ce point, lisons-nous dans la revue du clergé français 1, paraît définitivement acquis après les savantes discussions du P.B. Allot et de M. Sertillange, et M. Le Breton l'admet sans réserve lorsqu'il écrit « Nous sommes parvenus ensemble à cette conclusion, que le dogme était indépendant des systèmes humains et que la formule positive qu'il énonce ne doit point s'interpréter comme écrite en langage philosophique, mais en langue vulgaire. Cette indépendance des systèmes humains est requise par les caractères les plus essentiels de la vérité dogmatique. Elle est immuable et ne peut lier son sort à celui des philosophies humaines. Elle est universelle et ne peut être réservée à une école de penseurs. Elle est pénétrée plus profondément par ceux dont l'âme est plus pure, plus détachée du monde, plus unie au Christ, non par ceux dont l'esprit est plus pénétrant et plus cultivé d'eux. En réalité, lisons-nous plus loin, les théologiens de nos jours, en accordant que la formule dogmatique, même exprimée en langage scientifique ou philosophique, n'a d'autre signification que celle que le sens commun peut lui donner, nous avertissent par là qu'il faut ne pas trop presser le sens, technique ou scientifique, des termes employés et qu'il faut ne voir que le sens réel, accessible au vulgaire, qui seul demeure invariable 3. Nous avons déjà rapporté au début de cet ouvrage la réponse faite par M. Leroy du point de vue bergsonien. En d'autres termes, a-t-il dit, il faut entendre les formules de la foi au sens obvie et non pas au sens savant. Nous sommes d'accord sur tout cela, et certes ce n'est point chose négligeable. Mais tout cela, cependant, à certains égards, voilà ce qu'il convient de remarquer, constitue peut-être moins encore une solution que l'énoncé d'un problème. En effet, quelle est la portée précise du langage vulgaire? À quel plan de pensée appartient-il? En quoi et par où les affirmations du sens commun peuvent-elles être dites indépendantes de toute philosophie théorique? C'est là un problème fondamental dont la solution n'est pas si simple qu'on pourrait le croire au premier abord. Chacun sera naturellement porté à prendre pour fond primaire du sens commun celle de ses tendances théoriques avec laquelle sans effort il sympathise. Faudra-t-il donc remettre aux esprits non critiques, aux ignorants incapables de dès mes premières les influences qu'ils subissent, le soin de définir le « système » de sens commun 4. Nous savons déjà comment, selon la doctrine bergsonienne, M. Leroy s'est efforcé de définir le sens commun. Il lui est apparu, dit-il, comme une organisation utilitaire de la pensée en vue de la vie pratique, le langage propre du sens commun, peut-on dire, c'est le langage de la perception usuelle, donc un langage relatif à l'action, fait pour exprimer l'action, modelé sur la action, action qui implique la pensée bien évidemment, puisqu'il s'agit de l'action d'un être raisonnable, mais qui n'enveloppe ainsi qu'une pensée toute pratique elle-même. Donc, la réalité qui constitue l'objet de la foi nous est notifiée à titre de fait sous les espèces de la réaction vitale qui lui correspond en nous. Elle nous est définie par l'attitude et la conduite qu'elle exige de nous cinq. Et il est assez malaisé de voir ce qui distingue cette conclusion de M. Leroy de la 26e proposition condamnée par le décret lamentabili du 3 juillet 1907. Dogmata fidei, rotinenda sutentum modo, juxta sensum practicum, id et tanquam norma preoceptiva agendi, non ver tanquam norma crudendi. Le Saint-Office vise un pragmatisme existant, et non pas un pragmatisme chimérique qui ne ferait aucune part à l'intelligence dans ce « sensum practicum » règle d'action. Au début de la première partie de cet ouvrage, l'examen de cette théorie pragmatiste du sens commun nous a montré en elle une application assez peu nouvelle du nominalisme empirique le plus radical. Ce nominalisme, nous l'avons fait voir, réduit en fin de compte la connaissance intellectuelle à la connaissance sensible et doit aboutir fatalement à la négation de la valeur ontologique des dogmes. Il nous dit « Il faut se comporter à l'égard de Jésus, comme à l'égard de Dieu, sans oser affirmer que Jésus est réellement Dieu. » On voit ainsi quel problème nous reste à résoudre. La formule dogmatique, même exprimée en langage scientifique ou philosophique, n'a-t-elle d'autre signification que celle que le sens commun peut lui donner? Montrons d'abord comment de fait la formule dogmatique, exprimée à l'origine en termes de sens commun, se précise souvent en termes philosophiques. Nous verrons en second lieu que, ainsi précisée, la formule dogmatique reste accessible, dans une mesure, au sens commun, si ce dernier est à l'état rudimentaire la philosophie de l'être, comme nous l'avons établi. Nous montrerons enfin que cette formule ainsi précisée dépasse les limites strictes du sens commun, mais qu'elle reste dans son prolongement et n'inféode le dogme à aucun système, proprement dit. Au préalable, il n'est pas inutile de prévenir une méprise. Certains nous reprocheront peut-être de nous être trop peu souciés dans la partie théologique de ce travail des besoins réels des âmes contemporaines, d'avoir été moins préoccupés de sauver ces âmes que de sauver la vérité révélée pour elles. On nous a déjà reproché de ne répondre que par une fin de non-recevoir à l'objection tirée du principe moderne de l'autonomie de l'esprit. Pour savoir ce qu'est le dogme, ce ne sont pas les besoins actuels des âmes qu'il faut étudier, c'est le dogme lui-même, et son étude nous permettra de découvrir et de susciter dans les âmes des aspirations autrement profondes et intéressantes que les besoins actuels dont on nous parle. Au milieu des complications qui l'encombrent, certain immanentisme paraît oublier parfois la première ligne du catéchisme qui résume tous nos devoirs. Les âmes d'aujourd'hui comme celles d'autrefois sont créées et mises au monde pour connaître et aimer plus qu'elles-mêmes et par-dessus tout cette divine vérité qui est l'objet de la foi avant d'être celui de la vision, pour se subordonner à elle et non pour la subordonner à leurs besoins réels ou factices. Nous devons servir Dieu et non pas nous servir de Dieu. William James trouve aujourd'hui tout naturel d'écrire la zéité de Dieu, sa nécessité, son immatérialité, sa simplicité, son individualité, son indétermination logique, son infinité, sa personnalité métaphysique, son rapport avec le mal qu'il permet sans le créer, sa suffisance, son amour de lui-même et son absolue félicité. Franchement, qu'importe tous ces attributs pour la vie de l'homme? S'ils ne peuvent rien changer à notre conduite, qu'importe à la pensée religieuse qu'ils soient vrais ou faussissent? Sans aller si loin évidemment, Monsieur le Roi VII nous dit, si comme l'admettent communément la plupart des catholiques, les dogmes ont d'abord un sens intellectuel et ensuite seulement un sens pratique et moral, le moindre reproche qu'on leur puisse faire est de sembler sans usage, d'être inutile et infécond, reproche bien grave à une époque où l'on aperçoit de plus en plus nettement que la valeur d'une vérité se mesure avant tout au service qu'elle rend, aux résultats nouveaux qu'elle suggère, aux conséquences dont elle est grosse, bref à l'influence vivifiante qu'elle exerce sur le corps entier du savoir neuf. Cette objection suppose que Dieu ne mérite pas d'être connu pour lui-même indépendamment des conséquences qu'on peut déduire de son existence, de sa nature, de son action. Elle suppose en outre que si la vérité divine est révélée à nos intelligences, c'est bien plus pour être assimilée par elle que pour se les assimiler. C'est appliqué aux choses divines qui nous sont infiniment supérieures, ce qui n'est vrai que des choses matérielles. C'est affirmer de ce qui est fin en soi et fin ultime, ce qui n'est vrai que de moyens dont l'unique valeur est d'être utile en vue d'autres choses. Infiniment au-dessus de l'utile, mais féconde comme une cause et une fin suprême, la vérité première ne cesse de nous dire comme autrefois à saint Augustin, « Je suis le pain des forts, grandis et tu me mangeras. Et tu ne me changeras pas en toi, comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi, » 10. Dieu nous demande de grandir. Lorsqu'il se révèle à nous, il cherche à nous diviniser en quelque sorte et non pas à s'anéantir en nous. Lorsqu'il se donne, il ne se contente pas de pourvoir à nos besoins, assurer notre vie morale, satisfaire notre sentiment religieux, suggérer à notre intelligence des résultats nouveaux, nous aider à développer notre propre personnalité. Il nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir et désirer, jusqu'à vouloir nous associer à sa vie intime, nous amener peu à peu à le voir comme il se voit et à l'aimer, comme il s'aime. Son but n'est pas d'exercer une influence vivifiante sur le corps entier du savoir, ses vues sont infiniment plus hautes. Ne pas se placer à ce point de vue surnaturel de Dieu, s'arrêter aux besoins actuels de nombre d'âmes, c'est vouloir ne rien comprendre au sens et à la portée de la révélation. Si au contraire nous voulons chercher à connaître Dieu comme il le mérite, comme il l'ordonne, pour lui-même, alors cette connaissance nous apparaît très féconde, non pas à la manière des moyens utiles, mais à la manière d'une cause et d'une fin suprême. Les œuvres d'un saint Augustin et d'un saint Thomas nous disent assez à quel point le dogme peut être intellectuellement fécond. Il suffit de parcourir la somme théologique pour voir quelle influence il a exercée sur toutes les parties de la philosophie, sur la métaphysique générale par l'affirmation de la création et de la création dans le temps, sur la théodicée par ce qu'il nous dit de la connaissance naturelle de Dieu et de tous les attributs divins, sur la psychologie rationnelle par la doctrine de la création de l'âme, de sa spiritualité, sa liberté, son immortalité. Il suffit d'examiner le progrès de ces sciences d'Aristote à saint Thomas, sa principale cause est incontestablement le dogme révélé qui oriente et finalise les recherches. L'influence n'est pas moindre en morale, traité de la béatitude suprême, de la loi divine et naturelle, de la conscience, des actes humains, des vertus, du péché, de la grâce. Les dogmes de la Trinité et de l'incarnation nous ont permis d'approfondir comme on ne l'aurait jamais pu faire la notion de personnalité, et celui de la transsubstantiation la notion de substance. Cette influence du dogme sur le corps entier du savoir paraît même avoir été trop profonde, selon Monsieur Leroy, puisqu'il est si malaisé aujourd'hui de le séparer de la philosophie traditionnelle. À qui la faute si la philosophie moderne se désintéresse de ses problèmes, si avec les notions de création, de providence, d'immortalité, elle perd tous les jours davantage, celle de fin ultime, d'obligation, de péché, de peine, de pénitence, de repentir, d'humilité, d'amour de Dieu? Platon dans le Gorgias était infiniment en avance sur la philosophie de notre époque, et de Platon à la théologie catholique, il y a un autre infini à parcourir. Cette théologie est méconnue comme le sens profond et surnaturel de l'Évangile. Des simples, des âmes contemplatives en vivent, mais les sages devenus trop prudents n'en vivent plus. Je te rends grâce, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux prudents et aux sages, et de ce que tu les as révélées aux petits. Oui, Père, je te rends grâce de ce que tel a été ton bon plaisir. Ces paroles de Jésus exprimaient son amour de Dieu, et se retournant vers les âmes, aussitôt il ajoutait, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous referai. » Matt 11, 25-28. Nous devions donc autant que possible étudier le dogme en lui-même et non pas en fonction des besoins actuels. Si d'ailleurs ces besoins devenaient la norme de nos affirmations, que resterait-il de la vérité révélée? On demande aujourd'hui à l'Église d'enlever à la parole de Dieu ce qu'elle a de trop intransigeant dans le ton sur lequel elle affirme, de trop sublime dans l'excès d'amour qu'elle exprime, les besoins de l'âme moderne ne vont pas si haut, de trop tragique dans les justices qu'elle annonce. On voudrait la rendre accessible à nombre d'âmes moins éprises de vérité que de liberté intellectuelle, de perfection surnaturelle, que d'idéal humain, des droits de Dieu que de leur propre droit. L'Église sera toujours d'une infinie charité à l'égard des faibles, elle n'oublie pas le mot de notre Seigneur à ses disciples. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, Jean 16, 12. » Elle recommande à ses ministres de n'aborder l'explication des plus profonds mystères que devant ceux qui sont assez avancés dans la connaissance des vérités saintes. Car, pour ceux qui sont encore faibles dans la foi, il serait à craindre qu'ils ne fussent accablés sous le poids d'une vérité si hautonze. À cette école surnaturelle de la charité les bannerges, comme saint Jean deviennent des doux et ne savent plus dire qu'une chose, aimez-vous les uns les autres. Rien de plus vrai, mais cependant, cet amour des âmes, par cela seul qu'il est essentiellement fondé sur l'amour de Dieu, ne peut jamais porter l'Église à commettre cette faute dont le monde ne peut toujours s'apercevoir et qui pourtant offense Dieu très gravement, elle consiste à diminuer sa gloire, de façon plus ou moins consciente à subordonner ses idées aux nôtres, sa volonté infiniment sainte à nos caprices d'un instant. Quant au principe d'autonomie, sous la forme absolue qu'on lui a donnée, nous ne pouvions, cela va sans dire, que l'écarter. S'il faut tenir, nous dit-on, pour second et dérivé le sens pratique et moral du dogme, et placer au premier plan son sens intellectuel. 2. Un dogme quelconque apparaît comme un asservissement, comme une limite au droit de la pensée, comme une menace de tyrannie intellectuelle, comme une entrave et une restriction imposée du dehors à la liberté de la recherche, toute chose radicalement contraire à la vie même de l'esprit, à son besoin d'autonomie et de sincérité, à son principe générateur et fondamental qui est le principe d'immanence 13. Le premier principe de la méthode n'est-il pas sans conteste, depuis Descartes, qu'il ne faut tenir pour vrai que ce que l'on voit clairement être tel 14? À l'objection ainsi formulée nous ne pouvions répondre que par une fin de non-recevoir. À supposer que le sens premier du dogme soit intellectuel, le refus d'adhérer intellectuellement à un dogme ainsi révélé par Dieu constitue, pour tous les théologiens et tout catholique, non point la revendication légitime d'un droit, mais le péché formel d'infidélité. Le premier devoir de toute pensée créée est de se soumettre à la pensée première. Comme homo ad autem quam crator et domino suo totus dependat, et ratio crata incrate veritati penitus subjecta si, plenum revelanti deo intellectus, et voluntati obsequium fit praest artenomur, credant supernaturalité, non propte intrinsecam rerum veritatem, et se de propter auctoritatem, ipsius dei revelanti, si qui dixer irrationem humanam, ita independentem es, ut fidei ad eo imprari non possi. En S. Concile du Vatican, dans un G, 10 degrés éditeur 1789 et 1810. Le principe d'autonomie, sous cette forme radicale, a été étudié par les théologiens à propos de sa réalisation exemplaire. Le péché de l'ange, l'ange, déchu, a voulu d'une façon perverse imiter de Dieu, en désirant comme fin ultime ou béatitude, ce qu'il pouvait atteindre par les seules forces de sa nature, et en se détournant de la béatitude surnaturelle, qu'il ne pouvait obtenir que par la grâce de Dieu. 5. Ce que l'âme moderne ne sait plus. Assez, ce qu'elle est gravement coupable de ne plus savoir, c'est que Dieu est Dieu et que nous par nous-mêmes ne sommes que néant. Comme par le passé, Dieu reste toujours celui qui est, et nous ceux qui sans lui ne sommes rien. Si dans la revendication de nos droits, nous oublions la gloire de Dieu, il ne cesse pas d'y penser et de vouloir la faire nôtre en nous assimilant à lui. Parce qu'il nous veut à lui à sa manière et non pas à la nôtre, il veille sur sa parole sacrée, l'Église ne peut pas en voiler le ton, elle ne peut y changer un iota, le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas 16, folie pour ceux qui se perdent, force divine pour ceux qui se sauvent 17. Pour la même raison, Dieu veille sur sa science, la théologie, lui interdit d'être trop humaine, lui défend à l'égard des idées en vogue certains respects qui ne seraient au sens scripturaire du mot que stultitia ou respect humain. Il la ramène toujours à ses principes dont lui seul a naturellement l'évidence et dont l'intuition fera notre vie de l'éternité. Devant les altérations du dogme, le théologien d'aujourd'hui doit conserver l'absolue franchise des pères et des anciens théologiens. Dans l'ardeur avec laquelle on proclame le principe d'autonomie, il est obligé de voir ce qui s'appelle, de son vrai nom, non pas toujours l'orgueil intellectuel, mais la peur du surnaturel. Nous avons peur de ne plus nous appartenir si Dieu devient tout à fait le maître chez nous. Nous ne parvenons pas à comprendre que nous ne serons vraiment délivrés que dans la mesure où Dieu sera en nous et y régnera. Seul le saint qui abdique toute autonomie à l'égard de Dieu est pleinement libre. De même que la grâce intrinsèquement efficace loin de nous violenter nous fait libre, au sens où l'entend saint Thomas, IQ. 83, A. 1, Anne 3. Ainsi la révélation dans l'intellect spéculatif lui-même dissipe les obscurités et les doutes, si nous voulons la recevoir non pas à demi, mais toute, avec cette passion ardente de la vérité qui nous arrache à nous-mêmes pour nous perdre en Dieu. Alors seulement nous saisissons les rapports multiples des choses et nous pouvons, sans leur faire violence, unir entre elles les vérités. La contrepartie le fait mieux entendre. L'homme séparé de la vérité, parce qu'il a peur d'elle, compose une parodie satanique de l'unité, n'ayant pas voulu unir ce qui est uni, concilier ce qui est conciliable, il tâche d'unir ce qui est nécessairement et éternellement contradictoire, il tombe insensiblement dans cette indifférence glacique, placide et tolérante, qui ne s'indigne de rien, parce qu'elle n'aime rien, et qui se croit douce parce qu'elle est morte. Devenu neutre entre la vérité et l'erreur, il croit qu'il les domine toutes les deux 18. C'est à l'antipode de la liberté intellectuelle des saints, des grands contemplatifs, l'absolue autonomie qui prépare, comme celle de l'enfant prodigue, les pires servitudes et les dernières déchéances. Elle a pour formule suprême, la vérité immuable n'est pas, elle serait contraire à la liberté de l'esprit. Rien n'est, tout devient, et dans le devenir s'identifient les contradictoires, l'être et le non-être, le bien et le mal 19. Cette philosophie sage, cette tolérance douce, reproduisent à leur manière le calme de la charité. Elles sympathisent avec toutes les religions vaines. Mais lorsque le Christ vient dire « Je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité écoute ma voix », elle ne trouve, comme Pilate, qu'un mot à répondre. Qu'est-ce que la vérité ? Johan. X20, 38. Arrivé là, l'homme ne sait plus même le sens du verbe impliqué dans tout jugement, était, non, mat. V, 37. Il ne voit plus en quoi s'opposent l'affirmation et la négation. Il est écrit, dit saint Paul, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Il les prendra dans leur propre ruse. I. Cor. In, 19. Sans nier toujours le caractère absolu de la vérité, certains nous disent, l'important n'est plus de savoir si Dieu est, mais si l'examen du problème de Dieu est vraiment libre. Pour cela, il faut être aussi sincère et ne disposé à se passer de Dieu s'il ne se rencontre pas, qu'à l'accepter s'il se rencontre. Il en doit être de même évidemment pour l'examen de l'existence du devoir. Nous savons ce qu'est en réalité cette indépendance, qui n'est pas avec moi, est contre moi. Math, 12, 30. Sans aller si loin, il nous arrive de préférer la recherche de la vérité à la vérité elle-même. Comme le remarque Pascal, on aime avoir, dans les disputes, le combat des opinions, mais de contempler la vérité trouvée, point du tout, comme ceux qui passent tout le jour à courir un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté 21. Cette frivolité nous fait dire parfois que la vérité divine est inutile et sans intérêt, si Dieu nous la donne, toute faite, nous voudrions la trouver nous-mêmes. C'est particulièrement le vice du subjectivisme, radicalement incapable de s'élever à l'objectivité de la charité, à l'amour de Dieu pour lui-même et non pas pour nous. Telle est la raison de notre fin de non-recevoir, on trouvera peut-être qu'elle n'est pas scientifique au sens moderne du mot, elle est réelle et théologique, et cela suffit. Pour la partie de l'objection, qui mérite considération nous y avons, croyons-nous, amplement répondu. L'autonomie de l'esprit dans la mesure où elle est légitime est même autrement sauvegardée dans la philosophie traditionnelle que dans le pragmatisme qu'on nous proposait. Ce qui est absolument contraire à l'autonomie de l'esprit c'est, dans l'ordre naturel de faire dépendre ses affirmations les plus essentielles des commodités de la vie pratique, et non de l'évidence objective de la vérité. Nous allons même sur ce point plus loin que Descartes, qui se contentait de l'évidence subjective. Pour qu'il soit vraiment autonome il faut à l'esprit l'évidence objective, ou l'être évident. Alors seulement il peut affirmer en pleine connaissance de cause, car il n'affirme que ce qu'il perçoit dans l'être même. S'il en est ainsi, Dieu, pour se révéler à nous, s'est surtout servi des notions premières de notre intelligence spéculative spontanée, il a réuni ces notions en une proposition non évidente. Il nous a demandé d'y croire surnaturellement parce qu'elle venait de lui, et nous a donné la grâce à cet effet. Dans la suite cette foi surnaturelle s'est explicitée conformément aux lois de l'autonomie de l'esprit, par la précision des notions premières, précision dirigée par Dieu et sanctionnée par lui qui est tout à la fois son œuvre et la nôtre. Ainsi seulement la parole de Dieu conserve sa portée objective, toute autre explication, nous allons le voir, l'appauvrit et la dénature. Ce n'est pas en appauvrissant la parole de Dieu qu'on sauve les âmes. Qu'on le veuille ou non, on ne fera ainsi que les affadir et les perdre. Quod si sal evanuri, in quo salietur? Ad nihilum vale ultra, nisi ut mitatur fora, et concupiscitur abominibus. Chapitre 1er. Comment les formules dogmatiques se sont précisées en termes philosophiques intirait la précision progressive des formules dogmatiques. Il reste donc à examiner s'il est vrai de dire que les formules dogmatiques, alors même qu'elles sont exprimées en langage philosophique, doivent être interprétées comme écrites en langage vulgaire. Nous ne ferons pas de difficulté à admettre que la foi peut s'exprimer en termes de sens commun, la formule de foi des premiers fidèles ne contenait aucun terme technique. Si les notions de sens commun, définition nominale, ce à quoi tout le monde pense quand on prononce tel mot, contiennent confusément une définition réelle vraie, qui est, elles peuvent traduire analogiquement la réalité divine. Mais précisément pour cette raison, tout système philosophique qui rompt avec le sens commun, comme le phénoménisme ou la philosophie du devenir, tout système qui refuse une portée ontologique aux notions premières d'être, de substance, de chose, etc., ne pourra servir à préciser la formule dogmatique primitive, à formuler ou à penser philosophiquement le dogme. Et si, pour une raison ou pour une autre, la formule primitive de sens commun a besoin d'être précisée, ce ne saurait être que par un recours à cette philosophie de l'être que M. Bergson appelle la métaphysique naturelle de l'intelligence humaine, et qui n'est, en réalité, que le prolongement naturel de l'intelligence spontanée. Pourquoi ne serait-ce pas là la métaphysique des conciles? Ce problème revient à celui de l'évolution du dogme après la mort du Christ et des apôtres. Tous les théologiens catholiques définissent cette évolution en disant qu'elle n'est pas dans la réalité connue, ni dans la révélation qui nous en est faite par Dieu, mais dans la connaissance que nous en avons. Et le progrès de notre connaissance consiste, disent-ils, dans un passage de l'implicite à l'explicite. Les théologiens catholiques ne disent pas « passage de la puissance à l'acte », ni même du virtuel à l'actuel, mais de l'actuel implicite à l'actuel explicite. La foi de l'Église primitive n'avait pas une extension moindre que la nôtre, nous ne connaissons pas plus de choses, mais les mêmes choses d'une façon plus précise. On a donné diverses analogies de ce progrès, celle du germe qui fait plutôt penser à un passage de la puissance à l'acte, celle du ferment moins grossière à certains égards. Des analogies prises de l'ordre de la connaissance conviendraient davantage. On pourrait donner comme exemple la même philosophie préparée par Socrate, développée par Platon, systématisée par Aristote, reprise plus tard par saint Thomas. Mais c'est là encore une analogie insuffisante, il y a le passage du virtuel à l'actuel, comme il arrive dans le développement non plus du dogme, mais de la théologie. La théologie déduit des conclusions nouvelles, qui n'étaient que virtuellement contenues dans les articles de foi. La véritable analogie du développement du dogme est le progrès que nous avons constaté dans la connaissance des premiers principes rationnels ou encore dans la connaissance des notions de liberté, de spiritualité. Tout le monde possède les premiers principes, ils sont comme la structure même de la raison, mais le vulgaire ne saurait les formuler. Il a fallu l'effort des philosophes pour trouver cette formule précise, pour déterminer les rapports de dépendance de ces différents principes à l'égard du principe suprême, le principe d'identité. Il y a un réel progrès depuis la simple adhésion du sens commun au quatrième livre des métaphysiques consacré par Aristote au principe de contradiction. Mais ce progrès réel n'est qu'un passage de l'actuel implicite à l'actuel explicite. Ce sont les mêmes principes explicités. De même, tout homme a conscience de son libre arbitre, il se sent maître de ses actes, maître d'agir ou de ne pas agir. Il a une idée non pas obscure, mais claire de la liberté, en ce sens qu'elle suffit pour lui faire reconnaître ce qui est libre et ce qui ne l'est pas. Mais cette idée claire reste cependant confuse en elle-même, elle ne sera distincte que lorsque la raison philosophique en déterminera la compréhension et la définira en la rattachant à l'être. La maîtrise de soi, que tout le monde affirme, deviendra alors de l'indifférence dominatrice de la volonté à l'égard du bien partiel, indifférence fondée sur la connaissance du bien universel et de l'hiatus infini qui le sépare d'un bien limité. C'est ainsi que nous devons concevoir l'évolution dogmatique au moins pour les dogmes fondamentaux qui, comme la Trinité et l'Incarnation, ont été, dès les premiers temps, objets de foi explicite et exprimés en termes de sens commun. L'explicitation de leur formule déjà claire n'a été qu'un passage du confus au distinct 22. Dès lors, il est à penser que cette précision est faite par un recours naturel à cette philosophie de l'être qui est le prolongement naturel du sens commun. De ce point de vue, pourquoi les termes de certaines propositions définies sur la distinction réelle des personnes divines ou sur l'union hypostatique devraient-ils se tenir dans les strictes limites où se meut l'intelligence spontanée? Au reste, qui fixera exactement ces limites? Qui dira où finit exactement le sens commun et où commence cette métaphysique naturelle qui en est le prolongement et la justification? Si l'on veut se faire une idée exacte de la nature du progrès du dogme, on peut comparer la formule primitive des dogmes de la Trinité et de l'Incarnation aux formules subséquentes destinées à en éclaircir le sens et à le développer en face des altérations de l'hérésie. La définition du Concile de Vienne sur l'âme, forme du corps, et celle de Trente sur la transsubstantiation nous donneront aussi quelques lumières. 2. Les formules dogmatiques de la Trinité. La confession de foi en la Trinité dans sa simplicité primitive est ainsi conçue. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, et in Jesum Christum Filium et Jus, unicum Dominum Nostrum, et in Spiritum Sanctum. C'était le noyau du symbole qu'on exigeait dans la réception du baptême et la simple reproduction de la formule baptismale donnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. Les hérésies des trois premiers siècles se sont écartées du vrai sens de cette formule. Elles ont pris trois directions. Les uns, insistant trop exclusivement sur l'unité de Dieu, niaient la distinction réelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce fut l'hérésie de Sabellius. D'autres insistaient, au contraire, sur la distinction du Père, du Fils et du Saint-Esprit au point de faire du Fils et du Saint-Esprit des êtres inférieurs au vrai Dieu. Ce fut l'hérésie d'Arius et celle de Macédonius. D'autres, enfin, venus plus tard, les trithéistes, maintenaient la distinction et l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en y voyant trois dieux. Le Concile de Nicée précisa le dogme contre les Ariens, non pas seulement d'une façon négative, par un anathème, mais d'une façon positive, en agrandissant le symbole apostolique par le développement de l'idée de filiation ou de génération. Le symbole de Nicée est ainsi conçu, et in unum dominum, Jesum Christum filium Dei, qui ex patrunigenitus generatus, hoc et ex substantia patri, deum ex deo, lumen ex lumine, deum verum ex deo vero, genitum, non factum, consubstantialem, patri, pecem omnia facta su, ekein que l'eau ekein terra. Vient ensuite l'anathème qui rejette la différence de substance et l'origine temporelle du Fils. Le premier concile de Constantinople précisa le dogme contre les Macédoniens relativement au Saint-Esprit. La doctrine avait déjà été fixée contre les trithéistes par la lettre dogmatique du pape Denis et par les anathèmes du pape Damase. Le concile de Constantinople 553, dans son premier canon, exclut les trois hérésies précédentes. sequin en confiture patriae filii, et spiritus sancti in am naturam sive substantiam, et unam virtutem et potestatem, et trinitatem consubstantialem, unam deitatem in tribu subsistantis sive personae adorandam, tali anatma si. Dans un G, 10 degrés et 10. 213. Il est à remarquer que cet anathème ne détermine pas seulement le sens négatif du dogme, par exclusion des hérésies. Il détermine ce qu'il faut positivement croire. La formule dogmatique comporte désormais les noms abstraits de nature ou substance et les noms concrets trois subsistances ou personnes. Le symbole dit de Saint Athanase, probablement du V2 siècle, résume toute la doctrine de la Trinité en enseignant qu'il ne faut ni confondre les personnes NQE confundant persona, ni séparer la substance, NQE substantiam separante. Les attributs de l'essence conviennent à chaque personne, mais ne doivent pas plus être multipliés que la substance même. Dans l'ère patristique, le symbole le plus complet du dogme de la Trinité est celui du 11e concile célébré à Tolède en 675. Il reflète, dit Cheben 23, toute la partie technique du dogme tel qu'il s'est développé dans la lutte contre les hérésies. Nous n'avons plus seulement ici les noms abstraits de « nature » ou « substance » et les noms concrets de « personne » ou « subsistance ». Mais ce qui distingue les personnes les unes des autres, ce sont des relations 24. Il est de foi qu'il y a, en Dieu, des relations réelles. Le symbole de Tolède dit expressément, « In relativiver ou personarum, ne minibus pater ad filium, filius ad patrem, sanctus spiritu ad utrosque refertur, qui est comme relative très personae dicantur, una tamen natura vel substantia creditur. Nexicut re persona, ita tre substantia predicamu, et sode unam substantiam, tres autem persona. Cod nim pater est, non ad se, et sode ad filium est, et cod filius est, non ad se, et sode ad patrem, et similite et spiritus sanctus non ad se, et sode ad patrem, et filium relative refertur, ineo cod spiritu patri, et fili predicatur. Item com dissimus, deus, non ad aliqui dissitur, sicu pater ad filium, vel filius ad patrem, vel spiritus sanctus ad patrem et filium, et sode ad se specialite dissitur deus, in relation nim personarum numerus cernitur, in divinitativero substantia, qui numeratum non comprehenditur. Ergo in hoc solum numero insinuant, cod ad avincem su, et in hoc numero carent, cod ad se su. Dans un G, 278-280. Cette doctrine qui sera reproduite par le Concile de Florence est incontestablement la soulignée expression d'un point de foi défini. Dans la suite, le Yves Concile de Latran apporte encore une nouvelle précision. Dans sa définition, contra abatem Joachim, jointe à son symbole, il affirme l'identité réelle de la substance divine avec chacune des personnes, ce qui exclut une division de la substance dans les diverses personnes. Quae libetrium, personarum et il ares, vidlice substantia, essentiae natura divina, et il ares non et generant, nque genita, nec procedant, et sode et pater, qui genera, et filius qui geniture, et spiritus sanctus qui procedi, ut distinction sa in personi, et unita in natura. Danse. 432. Enfin, le filioque est défini au concile de Lyon et de Florence, et le décret pour les Jacobites donne un exposé général de toute la doctrine de la Trinité, qui peut être considérée comme la dernière soulignée expression du progrès dogmatique. Un degré il précise la distinction réelle et indestructible des personnes en se fondant sur leur origine. Deux degrés leur unité absolue, excepté en ce qui regarde les relations et très personae su unus deus et non très dit, qui atrium est una substantia, una natura, una divinita, una immensitas, una aeternita, omniac su, ubi non obvia relationi oppositio. De cette unité découle la circumcession des personnes et leur égalité. Trois degrés les trois personnes sont un seul Dieu et un seul principe de toute chose. Ce décret, danse. 703 est une définition solennelle, comme l'indiquent les premiers mots. Sacrosancta Romana Ecclesia, firmite credi profitetur et predica, etc. La formule dogmatique développée comporte donc désormais les concepts de nature, de subsistance, de relation. Dans l'époque moderne, il n'y a guère à citer que les déclarations de l'Église contre Luther. Luther reconnaissait l'origine divine du christianisme et l'infaillibilité de l'Église, mais, selon lui, tant que le progrès de l'esprit humain n'avait point permis d'arriver à la pleine intelligence du christianisme, Cette infaillibilité n'avait pu servir qu'à faire le meilleur choix possible parmi les interprétations régnantes. Les interprétations proposées infailliblement par l'Église avaient donc été celles qui s'harmonisaient le mieux avec la civilisation et les besoins de l'époque. Toutes les définitions des conciles contenaient ainsi un peu de vérité, mais à mesure que l'exigeait la marche du progrès, elles devaient être remplacées par d'autres plus proches de la vérité absolue et plus conformes à la raison 25. Modernistes avant la lettre, Goethe tenait pour périmée la philosophie des pères et des théologiens. Ils n'ont pas su établir, disait-il, la théorie de la connaissance qui doit chercher ses bases dans la conscience du moi. C'est Descartes qui a ouvert la véritable voie. De ce point de vue moderne, la personnalité ne peut consister que dans la conscience du moi. Dès lors, une modification dans la conception du dogme s'impose. Si Dieu a conscience de lui-même par son essence, il n'y a en lui qu'une seule personne. Si Dieu se connaît, c'est donc, selon Luther, par les trois personnes qui sont en lui, c'est en s'opposant lui-même comme sujet, à lui-même comme objet, et en affirmant en même temps l'égalité de ce sujet et de cet objet. Ainsi s'expliquerait le mystère de la Sainte Trinité. Le sujet ayant conscience de lui-même serait la première personne. L'objet ayant conscience de lui-même serait la seconde personne. Enfin, la conscience de l'égalité de ce sujet et de cet objet constituerait la troisième personne. L'acte de conscience de soi ou l'intellection est ainsi triplé, pour qu'il y ait trois personnes, mais par là la nature divine elle-même est triplée, car elle s'identifie avec l'intellection. Il n'y a plus ainsi, selon Luther, une unité numérique de nature et d'intellection pour les trois personnes divines, mais seulement une unité formelle dynamique. La nature divine est triplée. Deus se in se ipso ut substantiam rilem oponi, se peomationem duplica 26. S'agit-il d'expliquer la préface de la Sainte Trinité, non in unius singularitat personae, et se de in unius trinitat substantiae, Goethe a recours à cette exégèse, vox unius secondo loco non eodem sensu accipienda et sic ut priori. Loco, et se deophonie, causa dissitur unius substantiae pro et justem substantiae, namic de ternaria, se triplicata substantia sermo et 27. C'est au sujet de cette erreur que Pie IX écrivit dans sa lettre du 5 juin 1857 à l'archevêque de Cologne, Nocimus in idem libri, Gutteriani, non pocalogie, quea catholica fit sinstrac, explication de unitat divine et substantiae, in tribu distinctis en piternisque personi non minimum aberrant. Danse. 1655. C'est aussi contre ce néo-trithéisme qu'ont été formulés les trois canons qui se trouvent dans le schéma du Concile du Vatican sur le dogme de la Trinité 28. Paragraphe 3. Les formules dogmatiques du mystère de l'incarnation. On peut suivre un progrès analogue et parallèle en comparant les formules successives du dogme de l'incarnation. La formule dogmatique primitive relative à la personne du Sauveur est la suivante dans le symbole apostolique reçu en Occident. Credo, in Jesum Christum filium ejus, patri unicum, dominum nostrum, qui natu et de spiritu sancto et Maria Virgine. Dans la forme occidentale postérieure, on lit, qui conceptus et de spiritu sancto, natu ex Maria Virgine. Quatre hérésies successives s'écartèrent du vrai sens de cette formule. Arius dit, l'unité de Dieu nous oblige à admettre que le logo est créé. Ce logo préexistant n'a pu prendre dans le sein de Marie et élever à lui une nature humaine complète, mais seulement un corps humain. Il paraît absurde de songer à unir en une seule personne deux esprits créés. Saint Athanase répond, nous n'eussions pas été rachetés, divinisés, si le logo qui est devenu chair n'avait pas été dans sa nature le vrai logo de Dieu. Et le concile de Nicée a grandi alors le symbole et après y avoir affirmé que le Fils est consubstantiel au Père, il ajoute, qui propte nostram salutem descendi, incarnatu et homo factus est. Apollinaire, qui prit part aux luttes contre les Ariens, ne voulut reconnaître rien de créé dans la nature spirituelle du Christ. Si le Christ, disait-il, avait eu une âme raisonnable comme la nôtre, il n'aurait pas été impeccable et ses mérites n'auraient pas eu une valeur suffisante pour nous racheter. Au reste, ajoutait-il, le logo divin et une âme raisonnable ne peuvent former un être unique. Restait donc à affirmer qu'en Jésus le logo divin remplaçait l'âme raisonnable. Le sens du symbole de Nicée fut alors parfaitement expliqué dans un long symbole reproduit par l'Ancora de Saint Épiphane et répandu en Orient vers 374. Credimus in filium Dei, qui, et homo factus est, hoc et assum psi perfectum hominem, hoc est, animam et corpus, et mentem et on qui est homo, excepto peccato, non ex semin viri, nequita utinum indum taxa in esse, et se de inse ipsum effectam ilam carnem transtuli, et in unam accentam singularitatem conjuxit, homo perfectus es volui. Dans un G. Numéro 13. Nestorius, par réaction contre Apollinaire, ne se contenta pas de soutenir l'intégrité de la nature humaine du Christ, il en fit même une personne particulière à côté de celle du Logos. Si le Christ, disait-il, est né de Marie, c'est qu'il n'est pas de nature divine. Le Logos Dieu n'a pu naître d'une femme, il habite seulement en celui qui est né de Marie. L'incarnation n'était plus qu'une simple union morale de Dieu et de l'homme Jésus. Le concile d'Éphèse approuva les 12 anathématismes de Saint Cyril d'Alexandrie contre Nestorius. Le second de ces anathématismes est ainsi conçu, sicui non confiture, carni secondum subsistentiam, unitum dei patri verbum, unum ques Christum com propria carne, dem silis et deum simul et hominem, as, remarquons encore que cet anathématisme ne constitue pas seulement le sens négatif du dogme en excluant l'erreur de Nestorius, il en détermine le sens positif. Il faut croire, sicui non confiture, positivement désormais à un apostrophe union hypostatique des deux natures. Eutychès, adversaire de Nestorius, se donna comme défenseur de la théologie de Saint Cyril et insista tellement sur l'union, qu'il en vint à perdre de vue la dualité des natures divines et humaines. Il n'y avait selon lui après un apostrophe union qu'une seule nature divino-humaine. Le concile de Chalcédoine définit alors la distinction des deux natures et précisa l'unité de personne ou hypostatique. Une même dame que Christum filium dominum unigenitum, induab une nature rien confuse. Salva proprietatutriusque, naturae in unam personam, atque subsistentiam concurrente, non in duas persona, partitum ou divisum. Le quatrième canon du concile de Constantinople, 653, reproduit ces expressions. Le concile de Latran, 649, condamne le monothélite en définissant qu'il y a dans le Christ deux volontés comme il y a deux natures. Désormais, le progrès dogmatique peut être considéré comme achevé. Le symbole dit de Saint Athanase éclaire l'union hypostatique par l'analogie très éloignée de un apostrophe union de l'âme et du corps. Le symbole de Tolède, 675, détermine plus exactement les rapports du Christ à la Trinité. Le concile de Florence, dans son décret pour les Jacobites, résume toutes les définitions précédentes avec un coup d'œil rétrospectif sur les principales hérésies. Dans l'époque moderne, au VIe siècle, Guthée estime que la doctrine du concile d'Éphèse, contre Nestorius répond à une philosophie désormais ruinée sous les coups du criticisme kantien. La philosophie moderne, qui fait consister la personnalité dans la conscience du moi nous oblige aujourd'hui, selon Guther, à reconnaître dans le Christ deux personnes comme il y a en lui deux consciences, l'une divine et l'autre humaine, mais deux personnes très intimement unies. Il n'y a pas unité de personnes, mais union dynarnique des personnes. Le Christ comme homme a conscience d'être subordonné au Verbe et de lui appartenir, et le Verbe a conscience d'agir en Jésus. Cette doctrine de Guther fut regardée par les théologiens comme un retour au nestorianisme. Pie IX déclara qu'elle n'était pas moins fausse que sa doctrine sur la Trinité. In comperti pariter abemus, neque meliora, neque accuratiora es, qui est traduiture de unitat divine verbi, personae induab naturi. Divina et humana. Dans un G, 1655. On trouve aussi dans les schmata du Concile du Vatican trois canons, contre cette erreur 29. Paragraphe 4. La définition du Concile de Vienne sur l'âme forme du corps. Citons enfin une dernière définition, que Guther crut inconciliable avec la philosophie moderne, la définition du Concile de Vienne sur l'âme raisonnable forme du corps. De finient, ut cucti nota si fidei sensere, vrita ac preocludatur universi erroribus aditus, ne subintr, quod quisqui decepsas rere, defendre se ten pertinacite preosumpsari, quod anima rationalis intellectiva non si forma corpori humanipe se essentialité, tant quam eroticus si consendu. Dans un G. 481. Le Yves Concile de Constantinople, 869, avait déjà défini que l'homme n'a d'autre âme que son âme raisonnable et condamné les apollinaristes qui distinguaient dans l'homme le corps, l'âme animale, et l'âme raisonnable. Cet enseignement sur l'unité de l'âme de l'homme n'était qu'un corollaire des principes relatifs à l'incarnation proclamés par le Concile d'Éphèse et le Second Concile de Constantinople, d'après lesquels le Verbe avait pris une chair animée par une âme raisonnable. Aussi Pie IX déclara-t-il contre Guther et Balzé que la doctrine, qui fait de l'âme raisonnable le principe de notre vie corporelle, ne peut être niée sans erreur dans la foi. Dans un G, 1655, note 1. Cette vérité, dit Monsieur Vacan, a été niée par deux catégories d'adversaires. Ceux qui estiment qu'il y a plusieurs âmes dans l'homme, gnostiques, manichéens, apollinaires, Guther, et ceux qui expliquent la vie végétative ou sensitive de l'homme autrement que par l'âme raisonnable, les mécanistes, Malebranche, Leibniz, 30. Mais le Concile de Vienne ne se contente pas de dire que l'âme raisonnable est principe de notre vie corporelle. Il affirme, en outre, que l'âme est paix. Ce est essentiel, il est forme du corps humain. Et dans le passage qui précède immédiatement celui que nous venons de citer, il dit même « Substantia animae rationali vere ape se humani corpori forma ». Le V degré concile de Latran répète la même formule, dans un G, 738. Vere per se essentialité humani corpori forma, et Pie IX la précise encore, s'il est possible, en la qualifiant de doctrine catholique, vera, pe se ad immediata corpori forma. Dans un G, 1655. On a beaucoup discuté, il y a une quarantaine d'années, sur le sens exact du mot « forme » dans cette définition du Codicille de Vienne. Librator, dans son livre du composé humain 1865, p. 306, dit « L'Église, dans ses décrets, ne définit point le sens vague d'un mot pour laisser à chacun la liberté d'y attacher le sens qui lui plaira. Elle ne tombe pas dans ce ridicule, et le lui prêter ne serait-ce pas outrager la maîtresse suprême de vérité ?» L'Église définit les choses par des termes, et elle emploie les termes dans le sens communément reçu parmi ceux à qui elle parle. Par conséquent, quand il s'agit de termes scientifiques, l'Église les emploie dans le sens admis par les docteurs contemporains, et elle veut que la chose définie en ce sens reste immuable. Zigliara, en 1878, publia son demande conciliviennensi. Comme Librator, il concluait, numéro 136. Patre conciliviennensi, vocabulum forma usurparin in sensu stricto scholastico 31. Il ajoutait cependant que le concile a pris le mot forme en un sens commun à saint Thomas et à Sco. Saint Thomas soutient que l'âme raisonnable donne au corps humain non seulement d'être un corps humain et vivant, mais encore d'être un corps et une substance déterminée, et regarde l'âme raisonnable comme la seule forme du corps. Sco, au contraire, admet une forme subordonnée, dite forme de corporéité. Le P. Palmieri 32 soutint que la définition étant conciliable avec le thomisme et le scotisme pouvait l'être encore avec un certain atomisme qui fait de l'âme raisonnable le principe de la vie corporelle. Le Concile de Vienne, disait Palmieri, a entendu définir le fait que c'est l'âme raisonnable qui donne la vie au corps et non pas la manière dont l'âme donne la vie au corps. Il a indiqué la manière communément admise au commencement du XIXe siècle par information, mais ce n'est pas ce qu'il avait principalement en vue. L'Église respecta les ouvrages nombreux où le sentiment du P. Palmieri était exposé. Ces ouvrages n'ont point été mis à l'index, et une lettre que Pie IX fit écrire le 5 juin 1877 au recteur de l'Université de Lille dit même que les écoles catholiques peuvent suivre sur ce point des sentiments différents, et que l'autorité suprême de l'Église n'a jamais porté de jugement qui favorisa l'un de ces sentiments en excluant l'autre. Coniam suprema ecclesiae auctoritas nunquam pro altera judicium tuli, Code alteram excluderait 33. L'Église, dit cette même lettre, impose seulement de reconnaître le principe théologique de l'unité substantielle de la nature humaine, qui est composée de deux substances partielles, le corps et l'âme raisonnable, et elle a toujours condamné les auteurs qui soutenaient, comme l'a fait Guther, qu'il y a dans l'homme un autre principe de vie que l'âme raisonnable. Ces trois exemples de formules dogmatiques suffisent. La formule développée du dogme de la Sainte Trinité comporte les concepts de nature ou essence ou substance, de personne ou subsistance 34 et de relation, chaque personne divine est une relation subsistante. La formule développée du dogme de l'incarnation comporte aussi les concepts de nature ou essence ou substance, de personne ou subsistance, d'union hypostatique ou union des deux natures dans une seule et même personne ou subsistance. La définition du Concile de Vienne sur l'âme raisonnable affirme enfin, à tout le moins, que l'âme raisonnable est principe de la vie du corps humain. La notion de substance, pour ce qui est de la substance corporelle, sera précisée encore par les définitions des conciles de Florence et de Trente sur la transsubstantiation. Si qui dixeri in sacrosancto eucharistie sacramento, roman substantiam pani, evini una com corpor, et sanguin domini nostri Jesu Christi, Negavrik mirabilem illam et singularem conversionem, totius substantie pani in corpus et totius substantie vini in sanguinem, manantibus d'une taxa speciebus pani et vini, quam quidem conversionem catholica ecclesia, aptissim transubstantiationem appella, A.S., Trib. Mans. 884. Cette dernière définition suppose que la substance corporelle est distincte de sa quantité, de son étendue, et de la loi des six phénomènes, puisqu'après la consécration la substance du pain n'existe plus, tandis que sa quantité reste comme aussi ses qualités avec leurs propriétés naturelles 35. Chapitre 2 Les formules dogmatiques ainsi précisées restant-elles accessibles au sens commun ? Ces formules dogmatiques ainsi précisées sont-elles accessibles au sens commun ? Oui, en une certaine mesure, si le sens commun est bien ce que nous avons dit, la philosophie de l'être à l'état rudimentaire. Non, s'il est seulement une organisation utilitaire de la pensée en vue de la vie pratique. Paragraphe 1. Les formules dogmatiques ainsi précisées sont inaccessibles au sens commun s'il n'est qu'une organisation utilitaire de la pensée en vue de la vie pratique. Si, comme le veut Monsieur Leroy, les notions de substance, de cause, de rapport, de sujet ne sont que des réifications et des symboles 36 de l'intelligence spontanée en vue de l'action, si la substance ou la chose n'est qu'une entité verbale par laquelle le sens commun réifie et immobilise le flux universel des phénomènes ou des images qualitatives, il va sans dire que les formules dogmatiques qui contiennent ces notions ne nous font pas connaître directement la réalité divine, mais nous la notifient seulement sous les espèces de la réaction vitale qui lui correspond en nous 37. Dieu est personnel veut dire, comportez-vous dans vos relations avec Dieu comme dans vos relations avec une personne humaine 38. La formule dogmatique n'enveloppe qu'une pensée toute pratique, et la réalité divine contient seulement, sous une forme ou sous une autre, de quoi justifier comme raisonnable et salutaire la conduite prescrite 39. Le sens positif du dogme n'a qu'une valeur pratique fixée dans son fond par l'attitude qu'il peut permettre à l'égard de Dieu, au lieu d'être fixé par la réalité divine elle-même. Or, tel n'est pas le sens que l'Église donne aux formules de ses dogmes. À ceux qui en doutaient, elle vient de le rappeler en condamnant, par le décret Lamentabili du 3 juillet 1907, 26e proposition, Dogmata fidei, rotinenda sutantumodo, juxta sensum practicum, id etant quam norma preoceptiva agendi, non verotant quam norma crudendi. Le Saint-Office ne peut viser un pragmatisme chimérique qui n'admettrait aucune correspondance entre ce « sensus practicus » et la réalité divine. Il vise un pragmatisme existant qui s'efforçait de ne donner qu'un sens pratique aux dogmes les plus spéculatifs. Pour l'Église, Jésus est Dieu. Le verbe être ici comme ailleurs a une portée objective. Si l'Église n'avait pas cru à la valeur ontologique des termes de la révélation, comment aurait-elle eu recours pour les préciser à des termes métaphysiques? Comment, pour ces termes métaphysiques, aurait-elle résisté jusqu'au sang? Se serait-elle résignée aux schismes les plus douloureux? Aurait-elle été jusqu'à anathématiser la mémoire d'un de ses pontifes 40, coupable seulement de ne s'être pas assez nettement prononcé sur un point de spéculation christologique qui paraîtrait bien secondaire à des symbolistes? De nos jours 41, il y avait assez d'opportunistes parmi ses enfants pour lui conseiller le silence sur la doctrine de Sabellius, sur celle des semi-ariens, de Tiquet ou de Sergius. Sabellius, comme Plutarchante, ne voulant admettre qu'une distinction de raison entre les personnes divines et ne voir en elles que trois fonctions ou trois rôles de Dieu à l'égard de l'humanité. À quoi bon définir la distinction réelle si le dogme ne nous fait pas connaître la réalité divine? Pourquoi tant de traités des pères et des docteurs qui ont pour but unique d'établir que cette distinction réelle ne pose aucune imperfection en Dieu? Pourquoi tant de travaux semblables sur l'union hypostatique? À quoi bon recourir au concept de relation et définir qu'il y a en Dieu des relations réelles pour écarter l'évidente contradiction à laquelle Sabellius voulait acculer les orthodoxes? Pourquoi tous les théologiens scolastiques ont-ils traité du fondement métaphysique de l'analogie des noms divins? Pourquoi ces longs travaux sur la similitude et la dissimilitude qui existent entre les relations divines et les relations accidentelles des créatures? Pourquoi le Concile de Reims aurait-il condamné Gilbert de la Porée, qui admettait une distinction réelle entre les sens divines et les relations? Pourquoi plus tard condamné Goethe? Pourquoi enfin le Concile du Vatican, ayant à définir l'objet de la foi, aurait-il écrit « Hoc hoc perpetuor, ecclesiae catholicae consensus, tenui et tone duplicem, es ordinem cognitioni, non solum principio, et ce de objecto etiam distinctum, principio quidem, quia in altero natural iration, et altero fin divina cognoscimus, objecto otem, quia pratea, anque natural iratio pertinge potest, credon danobi proponitur, mysteria in deo abscondita, kenisi revelata divinitus, inotes renom possu. L'objet de notre foi, ce sont les vérités cachées en Dieu, qui ne peuvent être connues que si Dieu les révèle et que le Saint-Esprit nous a révélées. Spiritunim omnia scrutatur, etiam profonda Dei, rappelle le Concile. C'est cette même vérité, dit-il encore, dont nous aurons au ciel la vision intuitive, quam predestina videus ant se ocula in gloriam nostram. Elle reste enveloppée comme dans une sorte de nuage tant que nous sommes éloignés de Dieu par cette vie mortelle, quasi caligin obvoluta, quam diu inac mortali vita peregrina mura domino, pefidem nimambulamus et non pespeciem, c. Va. Nance. 1796. Si le dogme n'a qu'un sens pratique, comment le même concile a-t-il pu dire que la raison éclairée par la foi acquiert par le don de Dieu quelque intelligence très fructueuse des mystères, tant par l'analogie des choses qu'elle connaît naturellement que par la liaison des mystères entre eux et avec la fin dernière de l'homme? Rappelons-nous que le Christ, pendant sa vie mortelle, avait la vision béatifique, il serait au moins téméraire de le nier. Comment prétendre que la vérité qu'il nous enseignait était dépourvue de valeur ontologique? N'oublions pas non plus les phénomènes les plus élevés de la contemplation mystique, les visions intellectuelles de la Sainte Trinité, dont parle à plusieurs reprises Sainte Thérèse, visions qui font saisir la distinction réelle des personnes divines et leur circumscription de façon autrement profonde que ne le peut faire la théologie spéculative. Le jour de Saint Augustin, au moment où je venais de communier, dit la Sainte, je compris, je pourrais presque dire je vis, je ne pourrais expliquer de quelle manière, je... C'est seulement que ce fut quelque chose d'intellectuel et de très rapide, comment les trois personnes de la Sainte Trinité, que je porte gravées dans mon âme, sont une même chose, le Seigneur me fit comprendre comment les trois personnes n'étant qu'une même chose, elles sont cependant distinctes 42. 2. Pourquoi les objections de Monsieur Leroy, contre la doctrine thomiste de l'analogie, ne portent pas le fondement de cette doctrine? À ses arguments d'autorité, contre la conception pragmatiste, nominaliste ou empiriste du dogme s'ajoute l'argument rationnel qui fonde la valeur analogique des noms divins ou des concepts qui expriment les perfections simplicité simplice, dont la raison formelle n'implique aucune trace d'imperfection. Monsieur Leroy conteste la valeur de cette preuve dans les pages qu'il a écrites sur la notion thomiste de l'analogie, dogme et critique, pp. 96-99, 138-147. Mais les objections qu'il soulève montrent qu'il sait. Contenté de lire très rapidement la question XI de la somme théologique, quelques passages correspondants du Ségente, et qu'il ignore le fondement de cette doctrine de saint Thomas 43. Ce fondement, comme l'a établi le Pégard Dei 44, c'est le conceptualisme réaliste. Avant de se demander si nos concepts d'ordre métaphysique et moral, 3 degrés d'abstraction, ont une valeur analogique à l'égard de Dieu, il faut évidemment savoir quelle est leur valeur à l'égard de l'être qu'ils représentent immédiatement. Or, il se trouve que pour le fervent nominaliste qu'est Monsieur Leroy, le concept n'est qu'une moyenne, 45, une image commune, résidu appauvri de l'expérience. Il ne traduit pas l'être foncier des choses qui, pour un conceptualiste réaliste, constitue l'objet de l'intuition abstractive de l'intellect. Dès lors, le recours au concept dans la connaissance religieuse ne peut être pour Monsieur Leroy, comme il ne cesse de le dire, qu'un recours à l'imagination, un naïf anthropomorphisme. Nominaliste, Monsieur Leroy est en désaccord avec nous sur l'objet propre de l'intelligence humaine, l'objet qui lui convient en tant qu'humaine, l'essence des choses sensibles. À plus forte raison, ne voit-il pas ce que nous entendons par l'objet formel et adéquat de l'intelligence humaine, celui qui lui convient en tant qu'elle est intelligence? Cet objet, c'est l'être dans toute son universalité. C'est là précisément ce qui fonde la possibilité, la non-répugnance, de notre élévation à l'ordre surnaturel ou de la vision béatifique, IQ12A. 4. C'est aussi ce qui fonde dès ici-bas la possibilité d'une connaissance analogique qui atteigne vraiment l'être de Dieu. La doctrine aristotélicienne et thomiste de l'analogie n'est autre, en effet, que celle de l'être conçu comme un transcendantal et non pas comme un genre. On a plusieurs fois exposé le détail de cette doctrine de l'analogie, sans en indiquer suffisamment l'essentiel, qui est déjà chez Aristote. L'être est l'unité, disait le stagiaire, ne sont pas des genres auxquels s'ajoutent des différences spécifiques extrinsèques, comme à l'animalité s'ajoute la rationalité. Il faut, en effet, de toute nécessité, que la différence soit, et qu'elle soit une 46. L'être et l'unité imbibent donc cela même, qui différencie les êtres, et conviennent aux différents êtres, secondum proportionem 47. Chacun participe l'être à sa manière. Il en va de même du bien 48. Du vrai, propriété transcendantale de l'être, qui l'accompagne dans toutes les catégories. L'être, l'unité, la vérité, la bonté s'attribuent à la substance, à la quantité, à la qualité, à l'action, etc. On dit un bon fruit, un bon citoyen, une bonne taille, une bonne qualité, une bonne action, etc. L'être n'est donc pas un noyau commun auquel s'ajouterait la différence propre à la substance et celle propre à l'accident. Ces différences étant encore de l'être, le mot « être », dans la substance et dans l'accident, ne désigne pas absolument la même chose, mais des choses proportionnellement semblables. La substance est à son être comme l'accident est à son être, chacun est à sa manière. Telle est l'analogie de l'être dans les choses finies. Or, la loi fondamentale de l'être et de notre pensée, le principe d'identité, nous oblige à affirmer que la réalité fondamentale, qui se suffit à elle-même, n'est pas le monde multiple et changeant, mais une réalité en tout et pour tout identique à elle-même, qui soit à l'être comme à état, ipsum esse, pur être ou pur acte. Le concept d'être par le premier principe, qui l'implique postule lui-même l'ipsum esse et s'applique donc analogiquement à lui. Il y a une similitude de proportion entre l'ipsum esse et son existence d'une part, la créature et son existence d'autre part, chacun est à sa manière. Dans la créature, l'existence est l'acte d'une puissance ou essence susceptible d'exister, mode créé. En Dieu, l'existence est acte pur irreçu, mode incréé. Il est clair que la raison formelle d'existence n'implique nullement de soi le mode créé, le mélange de potentialité ou d'imperfection. Loin d'être inconnaissable l'ipsum esse est donc comme le dit Aristote le premier intelligible, mais 12, c. 7. Il est souverainement bon, parce qu'étant la plénitude de l'être il est le premier désirable, capable d'attirer tout à lui, ia, q. 5. Il est infini, parce que pur être sans limite des sens, ia, q.7, a. 1. À l'ipsum esse doivent être attribuées analogiquement toutes les perfections, dont la raison formelle n'implique aucune imperfection. Ces perfections sont, en effet, celles qui se définissent par un rapport immédiat à l'être ou à l'un des transcendentaux, l'intelligence par rapport à l'être, la volonté par rapport au bien, de même les attributs de l'intelligence et ceux de la volonté. Elles doivent donc être transcendantales ou analogiques, comme l'être même, susceptible comme lui d'être purifié de toute potentialité et de s'appliquer formellement, formalité éminentée, à Dieu. Bien plus, comme l'être, elles ne sont à l'état pur qu'en Dieu. C'est dans la créature qu'elles sont comme souillées par le mélange de potentialité ou d'imperfection. L'ipsum esse doit être intelligent à sa manière, comme l'homme l'est à la sienne. L'homme est intelligent dans la mesure où il est immatériel, dans la mesure où sa forme dominant la matière, l'espace et le temps, lui permet de connaître non pas seulement tel être particulier et contingent, mais l'être. Et comme l'homme n'est pas l'être, l'intelligence n'est en lui qu'une puissance relative à l'être, intentionnelle. Elle est un accident de la catégorie qualité et l'intellection humaine n'est qu'un acte accidentel de cette puissance. L'ipsum esse est intelligent lui aussi dans la mesure où il est immatériel et comme par définition il est indépendant non seulement de toute limite matérielle et spatiale, mais encore de toute limite des sens, non seulement il est souverainement intelligent, mais son intelligence est l'intellection même, c'est-à-dire l'être même à l'état de suprême intelligibilité, toujours actuellement connu, un pur éclair intellectuel éternellement subsistant. Ne cherchons pas ici la dualité du sujet et de l'objet. Elle ne provient, dit saint Thomas, que de la potentialité de 1 et de l'autre 49. Déjà dans notre intellection actuelle s'identifie notre intelligence et son objet en tant que connu 50, dans notre acte de réflexion s'identifie l'intelligence connaissante et l'intelligence connue, en Dieu s'identifie la pure intellection et le pur être qu'elle pense. Cela n'est pas moins évident si nous partons de l'ipsum esse comme premier intelligible, et non plus comme premier intelligent. Pour être acte pur à tous points de vue il doit être, dès toujours intelligible non seulement en puissance, mais en acte et même intelligé en acte, intellectum in actu. Or l'intelligible toujours actuel n'est autre que l'éternelle intellection. Mais 12, c. 9. Tout cela est autrement certain que les plus absolues certitudes des sciences positives, pour cette excellente raison que notre intelligence le perçoit immédiatement dans l'être, son objet formel. C'est de la pure lumière intellectuelle. Cette attribution analogique de l'intelligence à Dieu a la plus absolue rigueur. De même que la raison formelle d'existence est indépendante du mode créé, limite des sens, mélange de potentialité. De même la raison formelle d'intellection est indépendante du mode créé, qui fait de l'intellection l'acte accidentel d'une puissance et la situe dans une catégorie, la catégorie qualité, distincte de la catégorie substance. En Dieu l'intellection est la nature même de Dieu, c'est-à-dire l'être même. IA, Q. 14, A.2 et 4. Cette identification de l'être et de l'intellection n'est donc pas seulement requise par une preuve ex communibus, parce qu'il ne peut y avoir de dualité, de multiplicité, dans l'absolu, mais elle est requise ex proprie, par la raison formelle de chacune des deux perfections. L'être pur doit être dès toujours intelligible en acte et la pensée pure doit être l'être pur actuellement connu 51. L'ipsum est et souverainement vivant, parce qu'il possède l'action de toute la plus immanente et conséquemment la plus vivante, l'intellection. Et cette action procède si bien de lui et de lui seul qu'elle est lui-même. Elle n'est pas l'adhésion à une vérité extérieure, elle est la vérité même à l'état de pensée toujours actuelle, toujours vivante. Dieu donc n'est pas seulement vivant, mais il est la vie. IA, Q. 18, A.2. Dieu jouit de cette félicité que nous ne connaissons que par instant. La vie est en lui, car l'action de l'intelligence est une vie, et Dieu est l'actualité même de l'intelligence. Cette actualité prise en soi telle est sa vie parfaite et éternelle. Aussi appelons-nous Dieu un vivant éternel parfait. La vie éternelle appartient donc à Dieu, car elle est Dieu même. Mais 12, c. 7. À l'ipsum est doit s'attribuer la volonté spécifiée par ce transcendantal qu'est le bien. La volonté a pour objet le bien en tant qu'il est connu, elle suit donc l'intelligence, comme l'inclination naturelle inconsciente suit la forme même, la nature même des êtres inconscients. En Dieu la volonté n'est pas plus puissante que l'intelligence, elle est l'acte même d'amour du bien ou le bien même toujours actuellement aimé. IA, Q. 19, A. 1. Chacun de ces concepts est analogue comme le bien, qui est une propriété de l'être. L'ipsum est est libre à l'égard de tout le créé, car, étant par lui-même et par lui seul la plénitude de l'être, la création n'ajoute rien à sa perfection. Il convient cependant que le souverain bien se communique avec la plus absolue liberté. IA, Q. 19, A. 3. L'ipsum est est provident, parce que son action extérieure, qui s'étend à tous les êtres et à toutes les fibres des êtres créés, est essentiellement celle d'un agent intelligent. Or l'agent intelligent agit pour une fin connue, qui est la raison d'être de tous les moyens qu'il emploie. Dieu donc ordonne toutes choses à une fin suprême qui est lui-même. La providence, ratio ordinarium infinem, est encore une perfection pure, qui se définit par une relation à la raison d'être. I, Q. 22, A. 1. L'ipsum est c'est juste parce qu'intelligent et bon il se doit à lui-même de donner à chaque être tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre la fin à laquelle il l'appelle. IA, Q. 21, A. 1. Aimant nécessairement le bien par-dessus tout, il se doit aussi d'en faire respecter les imprescriptibles droits, et d'en réprimer la violation. I de Q. 87, A. 1 et 3. L'ipsum est c'est miséricordieux, car c'est le propre de l'être tout-puissant et infiniment bon de donner aux autres, de venir à leur secours, de les relever de leur misère, de faire non seulement quelque chose de rien, mais de tirer le bien du mal, du péché le repentir, et l'amour est un amour d'autant plus intense que le péché était plus profond. C'est là le triomphe de Dieu, et la raison qui attire la suprême richesse vers la suprême pauvreté. Pertinet ad misericordiam, quod ali effondat et quod plus est, quod effectus aliorum sublevet. Et hoc maxim superiori est. Un de miserori ponitur proprium Deo. IA, Q. 21, A. 3. IA, Q.30, A. 4. Il faudrait autant d'articles spéciaux pour établir nettement la valeur analogique de chacun de ces concepts, par réduction à l'être. Ce que nous venons de dire suffit à montrer que ces perfections absolument simples de par leur rapport immédiat à l'être pur, n'impliquent dans leur raison formelle rien de potentiel, et font abstraction du mode créé. À la limite, elles se réalisent pures de toute potentialité et s'identifient ex proprie et non pas seulement ex communibus avec l'acte pur. Dans les discussions récentes, on parlait sans cesse de la transposition de nos catégories en Dieu. En réalité, ce qui se transpose en dieux ne sont pas les catégories ou genres suprêmes, qui sont univoques, mais les transcendentaux ou analogues qui dominent tous les genres. C'est clair pour l'être, l'un, le vrai, le bien, c'est non moins clair pour l'intelligence, la volonté, la liberté, les perfections intellectuelles et volontaires, dont la raison formelle n'est pas dans une catégorie, substance ou qualité, mais se définit par relation immédiate à l'être 52. Tiret, Dieu, dit saint Thomas, n'est pas dans le genre substance, car le nom de substance ne signifie pas seulement ce qui est par soi, mais l'essence qui demande à exister par soi et non dans une autre, sans être cependant l'existence même. Ia, Q. 3, A. 6, Adin. Quant à la relation, elle n'est pas en Dieu un accident, et les plus difficiles instances contre le mystère de la Sainte Trinité se résolvent en montrant que l'insigne de la relation en Dieu est substantielle. Nous ne concevons pas Dieu comme un homme dont les proportions seraient portées à l'infini, mais comme l'être même, et nous ne lui reconnaissons que les attributs qui découlent nécessairement de ce concept d'ipsomès. Il n'y a pas là d'anthropomorphisme. Nous ne concevons pas Dieu à l'image de l'homme. C'est l'homme qui est à l'image de Dieu en tant qu'il a reçu une intelligence qui a pour objet l'être et ses lois absolues. Signatum et superno lumen vultutui domine. Postscriptum. 4, 7. Monsieur. Le Roy objecte que la proportion établie par l'analogie n'éclaire pas la réalité divine, car une proportion n'est éclairante et définissable que si trois des quatre termes sont connus indépendamment d'elle, et ici il y a deux inconnus, Dieu et son attribut. De plus, ces deux inconnus n'en font qu'une objectivement, puisqu'en Dieu tout se confond. La vraie formule de la proportion serait donc, par exemple, celle-ci, Dieu est à Dieu ce que la personnalité est à l'homme. Une fois encore, la prétention de saisir Dieu tel qu'il est en soi conduirait à l'agnosticisme. Dogme et critique, p. 146. Sans faire connaître la déité telle qu'elle est en soi, comme la voient les bienheureux, l'analogie de proportionnalité, Dieu est personnel, c'est-à-dire subsistant, intelligent et libre, à sa manière, comme l'homme l'est à la sienne, nous exprime quelque chose de la réalité divine. Il est faux qu'il y ait, dans les proportions établies, de termes absolument inconnus. Lorsqu'en vertu du principe d'identité et du principe de raison d'être nous affirmons l'existence de l'ipsomès, Dieu est connu pour autant que ce qui est, sans être par soi ne se suffit pas pour être, pour autant que ce qui est, sans être par soi doit avoir une similitude avec ce qui est par soi, pour autant que nous corrigeons la dissimilitude en affirmant nécessairement que l'existence en Dieu est pure existence, irreçue. Toutes ces affirmations ont une valeur ontologique, puisqu'elles sont toutes posées pour rendre le réel intelligible en fonction de l'être, puisqu'elles sont toutes exigées par le concept même d'être. Lorsque, dans la suite, nous établissons la proportion, l'ipsomès et x à sa manière, comme l'homme est intelligent à sa manière, sur les quatre membres de la proportion, il y en a deux connus immédiatement, homme et intelligence, inconnus analogiquement, ipsomès, et le droit d'affirmer la similitude des proportions repose sur l'évidence du rapport immédiat que soutient la raison formelle d'intelligence avec la raison formelle d'être. Ce dernier rapport, nous le saisissons non pas seulement a posteriori dans l'expérience, comme le dit Monsieur Le Roy, mais a priori dans l'être même, et comme l'être est forcément analogue, l'intelligence doit l'être aussi. Ensuite, l'intelligence divine analogiquement connue, on passe à la volonté, etc. On objecte que ces différentes raisons formelles, dépouillées du mode créé, s'identifient dans l'éminence de la déité. Mais cela, bien loin d'affirmer la valeur analogique des concepts, est affirmé exproprié par ces mêmes concepts en tant précisément qu'ils sont analogues et purifiés de toute potentialité. L'être pur doit être l'intellection pure et non pas intelligible en puissance. De même, l'intellection pure doit être l'être pur et non pas une reproduction intentionnelle et par la potentielle de l'être pur. Monsieur Le Roy ne comprend pas le passage à la limite parce qu'il ne voit pas que les perfections absolument simples ont un rapport immédiat à l'être et qu'à la limite l'être est l'ipsomès reçu, cela en vertu du principe d'identité. Mais si au lieu d'admettre le conceptualisme réaliste, on s'en tient au sensualisme nominaliste, si de l'instabilité des apparences sensibles devenue le seul réel, on infère que le principe d'identité et de non-contradiction est une loi de la logique pure et non de la réalité, le réel fondamental n'est plus qu'un devenir, et une contradiction réalisée. À ce compte évidemment, la connaissance conceptuelle analogique de Dieu est vaine. Le principe d'identité admis au contraire, comme loi foncière du réel, on dira avec saint Thomas, Iacu. Xi, A. 6. Aecomnia, ENS, Bonita, Sapientia, Quantum Adrem Significatam Phenomen, P. Prius Dicutur de Deo, Quam de Craturi, Quia Deo Uius Modi Perfection Manant. S. De Quantum Ad Impositionem Nomini, P. Prius Anobi Imponitur Craturi, Caprius Cognosimus. Même on ignait cette priorité ontologique, pour lui, Dieu est bon, signifiait seulement, Dieu est cause de la bonté des créatures. Pourquoi? Réponse Saint Thomas, Ar. 2. Ne pas dire aussi bien, Dieu est animal, en tant qu'il est cause de l'animalité, corporelle, en tant qu'il est cause de la corporéité. Maimonide ne comprenait pas en quoi la bonté, qui est un transcendantal, diffère d'un genre. Il n'y a qu'une manière d'être corps, d'être animal, ce sont des genres auxquels s'ajoutent des différences extrinsèques. Mais il y a plusieurs manières d'être bon, d'être vrai, d'être un, d'être être. Car ces transcendentaux imbibent cela même qui différencie les êtres. Il est vrai de dire, ce fruit est bon à sa manière, physiquement, au point de vue du goût, cet homme vertueux est bon à sa manière, moralement, Dieu est bon à sa manière, c'est-à-dire absolument. C'est là, pour toute l'école, une dénomination non point extrinsèque, mais intrinsèque. L'attribution est formelle, c'est seulement le mode de l'attribution, qui est humain du fait, qu'il implique l'opposition du sujet et du prédicat. Cela est si vrai que notre Seigneur va jusqu'à dire, Nemo bonus nisi solu deus, QUC, X20, 19. Dieu est bon par lui-même et sans limite, tandis que nous, par nous-mêmes, nous sommes ce qui n'est pas, ce qui se refuse au lieu de se donner, ce qui faiblit et retourne au néant. De même, comme le note ici Saint Thomas, Saint Paul dit de Dieu le Père, ex quo omni paternita sincli et intera nominature. If. In. 15. Il ne nous est pas possible d'admettre que le sentiment de Saint Thomas et celui de Maimonide diffèrent uniquement quant à la façon de parler 53. L'école y a toujours vu une opposition absolue 54. Il suffit de citer la conclusion de l'article 2 de cette question XI de la IAPAR. Comme ingitur dicitur deus et bonus, non et sensus, deus et causa bonitati, vel deus non et malus, et sode et sensus, id con bonitatem dissimus in craturi, praexisti in deo. Et hoc idem secondum modum altiorem. Undex hoc non sequitur, con deus competa es bonum, in quantum causa bonitatem. Et se depotius converso, quia e bonus, bonitatem robus diffondi. Eckhart tomba plus tard dans une erreur très voisine de celle de Maimonide, comme le prouve la proposition condamnée. Con deus non et bonus, nque melior, nque optimus. Ita malnico, quandocum que voco deum bonum, Axiego album vocarem nigrom. Danse. 528. On ne saurait trop le redire en ce temps d'agnosticisme, en un sens nous connaissons Dieu. Beaucoup mieux que nous ne connaissons les hommes avec lesquels nous vivons le plus intimement. L'homme qui me tend la main se décide peut-être au même instant à me trahir, son geste est peut-être un mensonge, je puis douter de sa parole, de sa vertu, de sa bonté. Je sais au contraire de science absolument certaine, même par ma seule raison, que Dieu ne peut pas mentir, qu'il est infiniment bon, infiniment juste, infiniment saint. De tous les êtres c'est lui en un sens, que je connais le mieux, lorsque je récite en le méditant le Pater, comme c'est de lui que je suis le mieux connu. Nous sommes plus sûrs de la rectitude de ses intentions que de la droiture de notre cœur. Bien plus, en un sens, nous connaissons mieux la nature divine que la nature humaine, et surtout que les natures animales ou végétales. Un thomiste qui a commenté une ou deux fois le traité de Deo Uno de Saint Thomas doit pouvoir rattacher à l'ipsum est tous les attributs divins et montrer la solidarité de toutes les thèses avec cette proposition fondamentale in solo Deo essentia est suidem. Il est certainement plus difficile de rattacher tout le traité de l'homme à la définition de la raison. Aristote ne disait-il pas que les choses divines sont plus connaissables, plus intelligible en elle-même que toutes les autres, maxime similia sui ipsa prima et causée, mais relativement à nous elles sont difficiles à connaître, qui a sensibus sur motissima. Mais. Elle. 1. Comme. 2. Sth. Le s. 2. S'agit-il des concepts qui expriment la Trinité, comme le concept de relation, la raison ne pourrait établir leur valeur analogique. Mais Dieu s'en est servi pour se révéler à nous. Il suffit que la théologie établisse que la relation ne pose pas en Dieu une évidente imperfection. Telle est la réfutation rationnelle de la conception pragmatiste du dogme. Dans ce système, le critérium de la vérité n'est plus l'être évident, c'est le rapport d'une action commandée ou conseillée avec nos innéités, nos besoins profonds. Mais que valent ces innéités dans un système qui ne peut admettre l'immutabilité de notre nature et son rapport ontologique et fixe avec Dieu? Ce sont des remous de l'inconscient. Paragraphe 3. Les formules dogmatiques exprimées en langage philosophique restent accessibles dans une certaine mesure au sens commun, s'il est une ontologie rudimentaire. Il nous paraît donc évident que la formule dogmatique est inaccessible au sens commun, si l'on ne veut voir en lui qu'une organisation utilitaire de la pensée en vue de la pratique. Il en va tout autrement si le sens commun est, comme nous l'avons défini, la philosophie de l'être à l'état rudimentaire. Ce que nous venons de dire suffirait à l'établir de façon générale, mais il importe de préciser notre thèse par un exemple et de la prouver négativement en montrant l'incompatibilité de toute autre philosophie avec le dogme. En dehors de la philosophie de l'être, on ne conçoit, en métaphysique générale, qu'une philosophie du phénomène et une philosophie du devenir. L'encyclique Passendi condamne le phénoménisme sous le nom d'agnosticisme et la philosophie du devenir sous le nom d'évolutionnisme. Le Concile du Vatican avait déjà condamné l'évolutionnisme hegélien et toutes les formes du panthéisme dense. 1804-55. Quant au phénoménisme, il était déjà atteint, selon M. Vacan 56, par le même concile qui a défini, en reprenant la formule du Yves Concile de Latran, que trois classes de créatures, matérielles, spirituelles, humaines, ont été produites par Dieu ex nihilo, secondum totam substantiam, dense. 1783 et 1805. Malebranche avait compris qu'il devait admettre l'existence des substances corporelles, parce que la révélation nous dit que Dieu les a créées. Le phénoménisme est inconciliable encore avec le dogme de la transsubstantiation. Entre autres arguments en faveur de ce système, Renouvier disait à qui voulait l'entendre, « Si vous admettez la substance, on vous y mettra la Trinité, l'union hypostatique et le reste. » Pour prendre un exemple dans les formules dogmatiques dont nous avons indiqué le développement, voyons la notion de personnalité que nous présente le phénoménisme empiriste, celle que nous donne le phénoménisme rationnel, celle, enfin, qui s'impose à la philosophie du devenir 57. Ces trois notions, bien loin de nous permettre de penser philosophiquement l'union hypostatique, la détruisent. Au contraire, ce dogme est accessible à l'ontologie rudimentaire du sens commun. A. Les notions phénoménistes ou purement dynamistes de la personnalité sont inconciliables avec le dogme de l'incarnation. Pour les phénoménistes empiristes, Hume, 5000, Taine, nous n'atteignons que des états de conscience et nullement un moi-substance. La personnalité est une série ou un agrégat de phénomènes conscients réunis par les lois de l'association des idées. Comme tout composé mental ou organique, le moi a sa forme normale. Mais si les éléments sont altérés ou le travail de composition dérangé, la forme dévie et l'œuvre finale est monstrueuse. C'est ainsi que se produisent les dédoublements de la personnalité. Parfois même, dans la folie, une personne se croit devenue complètement une autre et agit conformément à sa croyance. Taine, de l'intelligence, t. 2, p. 231. Pour les phénoménistes rationalistes, Renouvier, la personnalité est une forme a priori de notre pensée, la plus élevée des catégories. Elle contient toutes les autres, puisque c'est dans la activité représentative qui lui est propre que les autres catégories trouvent leur centre et leur application. Les personnes ne sont pas des choses en soi, il n'y a de réel que les phénomènes. La personnalité est un phénomène général, complexe, durable, qui est la synthèse, la loi d'autres phénomènes, une représentation embrassant les autres. Notre existence n'est rien qu'en tant que représentée. En dehors de nos représentations réelles ou possibles, il n'y a rien pour nous 58. Pour un partisan de la philosophie du devenir, la personne, le moi n'est ni un agrégat de phénomènes, ni une catégorie, c'est un élan vital et libre qui revêt successivement les formes diverses que nous appelons état de conscience. C'est la thèse longuement développée et défendue aujourd'hui par M. Bergson. Pour la philosophie de l'être, métaphysique naturelle de l'intelligence humaine, la personnalité est quelque chose de plus profond que les phénomènes et leurs lois empiriques ou a priori, plus profond que le devenir sous-jacent.